Les plumes sur RCN, présentées par Mona.
Bonjour à tous. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Sylvain Moraillon, venu nous présenter Les Maîtres de la Pluie, son roman paru aux éditions Le Lys Bleu. Avec nous également notre conteur habituel, John Bullitt, qui nous fera la lecture de sa nouvelle merveilleuse Géraldine. Alors Sylvain Moraillon est encore et toujours un homme très éclectique, puisqu'il est parolier pour de nombreux chanteurs comme Daniel Lavoie, Michel Fugain, Faudel, Gérard Lenormand ou encore Patricia Cass. Il est également scénariste, un gars, une fille ou encore caméra cachée. Ingénieur du son sur des concerts, notamment de Benabar, Vincent Delerme et Olivia Ruiz. Et il trouve encore le temps d'être écrivain. Bonjour messieurs, j'espère que vous allez bien.
Oui. Bonjour madame.
Bonjour.
Alors Sylvain, comme nous avons pu le voir, vous avez beaucoup d'activités différentes. Alors comment faites-vous? Vous avez encore le temps de dormir quelquefois?
Je ne dors pas beaucoup en fait.
Ah c'est vrai?
Oui, je dors très peu, 4-5 heures par nuit, ça me suffit.
Ah d'accord, ah bah c'est bien. J'aimerais bien être comme ça moi. Les Maîtres de la Pluie est votre quatrième roman. Alors comment est née l'idée de ce roman?
Alors c'est un projet que je portais il y a très très longtemps en fait, je l'ai commencé il y a plus de 20 ans. Voilà, j'avais pas la maturité pour raconter l'histoire que je voulais raconter, donc j'ai continué à me documenter beaucoup, réfléchir beaucoup, et puis ces deux dernières années, voilà, je me suis dit il est temps de le finir. En fait, l'idée m'est venue, voilà, moi j'appartiens à une génération en fait qui a grandi avec chaque jour au journal de 20h les images de la famine en Éthiopie. J'ai été très très marqué par ça étant jeune, adolescent. Voilà, et quand je vois l'évolution du monde contemporain, je me dis c'est pas possible que ça continue encore aujourd'hui. Voilà, là il y a une famine dans la Corne de l'Afrique, une sécheresse terrible, 5 millions de gens qui sont potentiellement en danger de mort à cause de la faim, et je trouve ça incroyable que 40 ans après ça soit toujours la même chose en fait. Voilà.
Oui, c'est vrai. Et on n'en parle plus beaucoup maintenant.
Et on n'en parle plus, quasiment plus. En tout cas, dans les médias télévisés, on n'en parle pas du tout. On en parle dans la presse écrite, un petit peu. Mais ça laisse les gens totalement indifférents. Voilà. Et je trouvais ça... On sait que l'Occident a bâti une grosse partie de sa fortune sur l'exploitation des ressources dans les pays africains, sur le continent africain. Voilà, ça continue aujourd'hui. Aujourd'hui, on est entré dans une période extrêmement cynique où on crée volontairement ce qu'on appelle des États non viables pour créer des zones d'instabilité, pouvoir continuer à exploiter les ressources naturelles de certains pays. Voilà, et je voulais raconter une histoire pour mettre en exergue ce cynisme politique, parce qu'en fait c'est un vrai cynisme politique. Voilà, on est riche parce qu'on appauvrit une grosse partie du monde, la plus nombreuse d'ailleurs. Hein. Voilà, donc nous on est nés du bon côté. Et voilà, je voulais raconter une histoire forte autour de cette thématique pour sans doute aider à prendre conscience et peut-être inciter les uns ou les autres à réagir.
Alors dès le prologue, le ton est donné. Nous faisons connaissance de Léon et Berthe et nous apprenons qu'il va se passer quelque chose d'inconcevable en plein cœur de Paris. Alors vous pouvez nous présenter Léon?
Alors Léon, c'est l'archétype du journaliste raté. Il y en a, ça existe. Hein, voilà. Il est donc très très aigri. Enfin, avant d'être un journaliste raté, c'est d'abord un écrivain raté. Voilà. Qui s'oriente sur la voie du journaliste, mais même là, il n'est pas doué du tout. Donc, il se retrouve à faire les basses besognes pour le compte de son journal. Et comme on le verra au fil de l'histoire, il est absolument prêt à tout pour sortir de l'anonymat voilà, et acquérir sa notoriété en empochant de l'argent au passage, si possible. Voilà. Donc, c'est un cynique. En fait, ce livre parle du cynisme et Léon... Léon, c'est le raté cynique, sans scrupule et prêt à tout. Voilà, prêt à tout.
Il n'a plus rien à perdre.
Il n'a plus rien à perdre.
Alors ensuite, c'est l'apocalypse. Vous voulez nous raconter un peu ce qui arrive d'inconcevable au cœur de Paris?
La gare Saint-Lazare, qui est un endroit mythique en plus qu'un haut lieu de mon enfance, donc j'ai peut-être voulu la détruire volontairement pour réparer quelque chose de mon enfance, mais en tout cas la gare Saint-Lazare est l'objet d'un attentat unique dans l'histoire de l'humanité. puisque cet attentat est commis en fait grâce à une arme météorologique qui permet de déclencher des cataclysmes géolocalisés. Voilà, donc c'est le chaos qui s'abat en plein cœur de la capitale. Alors c'est le début du livre, hein. Je me suis adonné à un exercice de style un peu. Voilà, c'est un chapitre un peu particulier dans le livre, puisque je décris en détail ce qui se passe pendant l'attentat, avec des moments assez durs.
Ah oui, je confirme.
Et assez crus. Et ça répond à un objet de fascination pour moi, morbide en fait. Je me suis toujours intéressé au terrorisme, en fait, parce que, encore une fois, enfant, ado, j'ai été marqué par certains attentats. Bon, il y a eu la rue des Rosiers, l'attentat du métro Saint-Michel, etc. Et je trouve ça absolument sidérant et incroyable qu'on puisse se promener dans la rue ou prendre le train et mourir parce que des types ailleurs ont décidé qu'il fallait faire un coup d'éclat. Voilà, c'est vraiment une idée qui me bouleverse, et c'est pour ça que je voulais prendre un grand soin littéraire à l'écriture de ce chapitre et à montrer en détail quelle horreur, vraiment l'horreur absolue que constitue l'acte terroriste en lui-même.
Alors, les auteurs de l'attentat, les maîtres de la pluie, demandent l'annulation totale de la dette africaine, la libération des prisonniers de droit commun, ainsi que la cessation de l'exploitation des richesses naturelles des pays africains. Alors, même si l'on ne peut pas cautionner la violence, bien sûr, on peut malgré tout les comprendre. C'est une forme de colonisation de l'Afrique, là ? On se remet jamais de notre colonisation, en fait ?
Il faut croire que non. Il faut croire que non. D'abord, la colonisation... De manière générale, l'histoire a clairement démontré que les anciens pays colonisateurs, lorsqu'ils ont accordé l'indépendance aux pays qu'ils avaient colonisés, les ont ensuite laissés livrer à eux-mêmes. C'est pour ça que d'ailleurs la plupart de ces pays sont dans des situations absolument désastreuses. C'est-à-dire qu'on leur a donné leur indépendance, leur liberté, mais c'est débrouillez-vous. Et voilà. Donc on n'en sort jamais, effectivement. On n'en sort jamais. Voilà, et le monde contemporain, en tout cas l'Occident actuel, continue à vivre comme ça. Donc c'est les États non viables, les anciens pays colonisés. On a établi des dictatures pour pouvoir continuer justement à exploiter les ressources.
Voilà. Et leur vendre des armes accessoirement.
Je pense clairement que notre système économique repose essentiellement sur la vente d'armes.
Oui.
Voilà, clairement. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit à l'instant. On ne peut pas évidemment cautionner, mais c'est l'une des motivations pour écrire ce livre. C'est cette idée qui m'a toujours obsédé de penser que qu'est-ce qu'on va faire le jour où on aura un groupe terroriste qui revendiquera des choses qui sont absolument légitimes et contre lesquelles on ne peut rien dire. Cette idée, elle me perturbe beaucoup. On ne peut pas cautionner la violence. Hein. Moi, j'ai toujours été pacifiste et non-violent. Il n'empêche que cette idée me perturbe. Et je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Si on ne peut pas légitimer le terrorisme, on peut en tout cas parfois réfléchir aux raisons qui font que certains en viennent à des actes de cette nature. Voilà. Ah oui, alors je reconnais que c'est un livre qui dérange. Hein. C'est un livre
qui pose des questions dérangeantes. On n'en sort pas indemne, là, c'est ce que je vous disais.
C'est un livre qui pose des questions dérangeantes. Oui. Elles existent dans le monde réel, ces questions. Le problème palestinien aujourd'hui, c'est une réalité.
Bah, bien sûr.
Voilà. Donc ça fait quand même 70 ans que ça dure. Il n'y a pas de solution. Il faut croire que personne ne veut de la paix, de toute façon, au Moyen-Orient. Donc ces questions, elles existent. Je ne les pose pas, elles ne viennent pas de nulle part non plus. Je les porte sans doute parce que je vis dans un monde, dans un environnement où je les ressens, où je les perçois, voilà.
Mmh. Alors Beaumont est un personnage quand même très déterminé.
Il est prêt à aller jusqu'au bout, voilà. Il est prêt à aller jusqu'au bout. Il n'a rien à perdre. Il est déterminé. Il est intelligent. Il a fait des études en France, d'ailleurs.
Oui, il est narque,
donc absolument, voilà, oui. Absolument. C'est un type extrêmement brillant. Donc, il décide d'agir pour son peuple. Et puisque, de toute façon, depuis des centaines d'années, on ne fait rien pour son peuple, sinon le soumettre et l'exploiter, il se dit, j'ai plus de limites, quoi. Il faut aller jusqu'au bout, maintenant. Il faut faire réagir. Mmh. Voilà.
Vous pouvez nous lire l'extrait où il parle de justement de ce qu'on a fait à l'Afrique.
Bah, cet extrait, en fait,
Oui.
il synthétise tout l'objet du livre, effectivement. Je constate que vous l'avez fort bien choisi. J'y vais. Malnutrition, chômage chronique, violence, problèmes sanitaires majeurs, accès à l'eau potable. Plus nous nous endettons, par exemple, pour construire des écoles ou des hôpitaux, plus nous devons nous endetter. L'État, comme partout, reporte sur nous le poids de sa créance. Mais nous, nous n'en avons pas les moyens. Comment peut-on tout prendre à ceux qui n'ont déjà rien? Les programmes d'ajustement, Elena, ce sont des plans de rigueur réduisant nos moyens de subsistance à néant. Les politiciens répercutent le coût de leurs bêtises sur le peuple, tout en ne se privant eux-mêmes de rien. Le Fonds monétaire décide des stratégies d'extorsion dont nous sommes victimes, sous l'égide de l'ONU, au nom des droits de l'homme. Des cols blancs, gras comme des cuisiniers, se réunissent autour d'une table et, sans vomir de honte, jugent à notre place ce qu'il faut faire pour que les choses évoluent. Dans leur sens, évidemment, jamais dans le nôtre. Personne ne s'en soucie. Depuis des dizaines d'années maintenant, le sujet est passé à la trappe. Les journaux, d'Europe en Amérique, en ont fait une véritable omerta. Nous n'existons même plus à vos yeux. Mais vous auriez mieux fait de vous méfier, car nous sommes nombreux. Aujourd'hui, nous réclamons notre dû. Si la situation perdure, je vous le jure, un jour, l'Afrique tout entière envahira votre continent. Dans un siècle, ou deux, ou trois, peu importe. Nous viendrons frapper à votre porte et nous serons 3 milliards. Nous avons un peu faim et nous voudrions notre part du gâteau. Moi, je ne fais que marquer le point de non-retour.
Et voilà, c'est fort, hein?
3 milliards.
Alors, nous allons faire une pause musicale et nous allons revenir après une de vos chansons, Eben.
Courbe d'ébène le long de figurines, masque indigène et relents de résine. Le bois sent bon la terre, on invoque une idole, l'air brûlé de mystère, à une musique forte. Un peuple danse autour de l'une froide, dans l'espérance que les dieux le regardent. Je pénètre la foi, envoûté par ses chants, quelque chose monte en moi, insidieusement puissant, je suis roi.
Je ne crains plus.
Les plumes sur RCN, Mona.
Nous sommes toujours avec Sylvain Morayon, venu nous présenter Les Maîtres de la pluie, paru aux éditions Le Lys Bleu. Alors avant de revenir au roman de Sylvain, John Bulit va nous faire la lecture de sa nouvelle Merveilleuse Géraldine. À toi, John.
Eh bien, Merveilleuse Géraldine, oui, c'est la suite un petit peu de ma famille. Hein. Après ma grand-mère dans Radio Patate et mon fils dans ça vous embouche un groin. Voici Merveilleuse Géraldine. Inquiétante, énervante et fatigante. Irritantes étaient les caractéristiques de la maladie pour le moins sonore dont souffrait ma femme depuis quelques jours. Ah, elle toussait, toussait, retoussait. Une toux bronchiteuse incessante et sonore. Notre docteur de famille, consulté rapidement, se déclara incapable à pouvoir juguler le problème lors de notre cinquième visite en 3 semaines. Oui, malgré les potions, les onguents, les pilules ou autres antibiotiques, elle toussait, toussait, retoussait à fendre l'âme sans discontinuer. Ouh, fatigant, inquiétant et énervant. Au cours des semaines suivantes, les plus éminents spécialistes de Nancy puis de Paris ne purent résoudre le mystère et la cause de ces toussotements incessants se déclarèrent eux aussi impuissants. Géraldine était épuisée et moi aussi. Moi qui ne vivais plus qu'avec des boules caisses dans les oreilles et ne pouvais plus communiquer avec elle que par SMS ou bien en écrivant sur un tableau ou sur du papier tout ce que j'aurais aimé lui dire de vive voix. Une calamité. Cependant, au 3e mois de sa maladie, par un matin d'hiver brumeux et sombre, se produisit un phénomène curieux et inexplicable. Alors que celle-ci s'apprêtait à se lever de notre lit douillet, tout en toussant à tout rompre dans la pénombre de la chambre, une forme brumeuse s'échappa de sa bouche et s'éleva lentement dans les airs. Et tout comme un phylactère de bande dessinée, la forme se déplia et apparut devant nos yeux ébahis. Oh, un tableau de Vincent Van Gogh. Celui-là même qu'elle avait admiré 6 mois auparavant au musée du Quai d'Orsay. Incroyable. Tu vois ce que je vois ? M'écrit-elle rapidement sur l'ardoise de communication. Incroyable, lui répondis-je interloqué. La forme continuait à se dresser dans les airs, et je distinguais parfaitement les formes, les couleurs et même les personnages. Impensable, m'écriai-je, impensable. À la même seconde, nous nous aperçûmes tous deux qu'elle ne toussait plus depuis qu'elle avait produit ou vomi cette chose, ce tableau. J'ai reconnu aussi la célèbre peinture « Nuit étoilée sur Arles » que Van Gogh avait peint en septembre 1888. Comment était-ce possible ? Je m'approchais, mais à peine avais-je tenté de toucher du doigt la forme que celle-ci disparut. Puis lentement se transforma alors en une image de la tour Eiffel, allumée et brillante de tous ses feux. Ah, cette fois-ci, enhardi, je tentais de la toucher, d'étreindre immédiatement son sommet métallique, mais ma main ne fit que passer au travers. Incroyable, répétai-je en boucle. Puis apparurent successivement l'image des premiers pas d'Armstrong sur la Lune, celle de la visite du pape à New York, de l'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, la naissance de notre fils, notre mariage et bien d'autres encore qui s'affichèrent tour à tour dans l'espace confiné de notre petite chambre. « Oh, Philibert, qu'est-ce qui m'arrive ?» souffla Géraldine entre 2 apparitions. « Ne t'inquiète pas, ma chérie, ça va passer. Et puis, c'est beau à regarder, non ?»« Oui, mais c'est inquiétant. Je suis devenue une galerie d'art, Philibert, » marmonna-t-elle entre ses dents. Puis, aussi soudainement que les apparitions étaient venues, celles-ci cessèrent brutalement au bout d'une heure. Les toussaintements de Géraldine reprirent par contre immédiatement et de plus belle. Oui, la manifestation artistique n'avait duré qu'une heure pile, et dès lors, ce même phénomène se répéta chaque jour, de 7h32 du matin à 8h32, avec la régularité d'un métronome. Que ma femme soit d'ailleurs dans sa chambre ou ailleurs, peu importe, les tableaux divers se matérialisaient avec rigueur dès sa bouche ouverte à 7h32 précise. La police vient constater ce que tout le quartier avait déjà appris par le bouche-à-oreille et rédigea une main courante de l'incident. Et puis très vite, Les journalistes locaux, puis les chaînes de télévision nationales s'emparent du sujet et dès lors, on se pressa à notre porte pour admirer cette étonnante merveille. Flairant la bonne affaire, nous décidâmes d'ouvrir notre porte au public, mais contre rétribution. Eh oui, une attraction comme ma Géraldine, ça valait de l'or. Ah, ce sera donc 5 euros l'entrée et 3 euros pour les enfants, les chômeurs. Bien vu, Philibert. Effectivement, dès Potron Minet, la foule se pressa à notre porte. La rue du Cheval Blanc ne désemplissait plus. De longues files d'attente encombraient les trottoirs jusque devant notre domicile. Et chaque matin, dorénavant, à 7h32 précise, ma femme ouvrait la bouche dans la pièce principale de notre logement. Ces toussautements cessaient alors et les peintures ou les images apparaissaient avec une précision chirurgicale, au grand étonnement des curieux jusqu'à 8h32 pile. Et à cette époque, je me souviens, les propositions juteuses, l'argent facile tombait de partout. Pour une publicité à la télévision, pour l'inauguration des Jeux Olympiques de Paris 2024, on reçut à chaque fois un très gros chèque. Le Cirque Zavata, puis celui du Soleil, nous proposèrent aussi de passer en attraction devant leur public dans le monde entier. Mais ma Géraldine était si épuisée que nous refusâmes. Oui, le seul moment où elle toussait pas se trouvait être justement le moment de l'attraction. Donc pas de repos possible à cet instant, pas de calme pour elle en dehors de ce temps béni. Aussi, rentrée dans sa chambre, lorsque les badauds et les clients ne voulaient pas partir à 8h33, elle leur criait « Allez, laissez-moi tousser seul, disparaissez, mais disparaissez tous !» Et pour accélérer leur départ, elle toussait, crachotait sur eux, ce qui avait pour effet immédiat de les faire se sauver à toutes jambes dehors sous une pluie de postillons. Ouf, enfin seul, m'écrivait-elle sur l'ardoise avant de s'enrouler dans sa couverture préférée, tout agité de sursaut dû à ses maudites cannes de tour. Un jour cependant, sa cousine, Delphine de Montpassant, qui était passée nous voir par curiosité lors des vacances de Noël, elle qui exerçait dans la Creuse en tant que psychologue, lui glissa avec insistance. Hey, « Tu sais, cousine, le fait de tousser, de vomir des images ou des tableaux, c'est probablement quelque chose que ton inconscient, malgré toi, n'arrive pas à dire. » Formulé par la parole. Oui, il y a des sentiments, tu vois, du ressenti que tu refoules et qui te reste en travers de la gorge. Quelque chose que tu n'arrives pas à dire et ton corps, ton inconscient produit à la place des images pour compenser le non-dit. Eh, tu devrais y réfléchir. Ah bon, tu crois, cousine, le quoi, le non-dit? Pourtant, va bien, à part cette toux, tout va bien. Avec Philibert, c'est le bonheur chaque jour. Même s'il ne peut plus dormir avec moi, hein, tellement je fais de bruit. Ouais, mais tu devrais y réfléchir, Géraldine, dit-elle avant de nous quitter.
Ouais, réfléchir, mais à quoi donc? Nos affaires fleurissaient, la foule, l'argent continuaient à affluer. C'était donc le bonheur.
Mais la fine mouche ne se trompait pas, et il est vrai que toutes les aventures exceptionnelles ont une fin. Celle-ci se dessina quelques jours plus tard à un certain 1er mars, alors que ma femme ouvrait la bouche à 7h32, comme de coutume devant un large public. Cette fois-ci, curieusement, ce ne fut pas la nuit étoilée de Van Gogh qui s'afficha pour débuter, mais trois autres photos inhabituelles. La première, où l'on me voyait avec elle, l'embrassant tendrement. La seconde où je rentrais seul dans un hôtel voisin. Et la troisième et dernière où je ressortais de ce même hôtel, mais au bras d'une très jolie fille que j'embrassais tout aussi tendrement. De surprise, Géraldine referma la bouche. Le public présent fit « Oh !» quand l'image disparut brutalement et que Géraldine m'envoya une gifle retentissante. Ce fut la fin de notre affaire et de notre couple. La chair est faible, c'est vrai, j'avais craqué. La maison fut vendue aux enchères, les meubles le reste séparés en deux, et la bouche de ma Géraldine ne s'ouvrit plus jamais pour produire la beauté, les merveilleux mots de l'amour qu'elle me disait avant. Etiam Deus molestiam abet amare simul et sapere. Oh, même un dieu a du mal à aimer et à être sage en même temps.
Merci John.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors nous revenons au roman de Sylvain Morayon. Ça n'est pas du tout le même genre, hein, bien sûr. Alors là, l'arme climatique qui est utilisée dans votre roman est redoutable. Alors ça pourrait devenir une réalité ou c'est déjà une réalité ?
Il y a des recherches. C'est-à-dire ce que je dis dans le roman est vrai. Il y a beaucoup de pays qui font des recherches qui, pour l'instant, aboutissent pas beaucoup. Donc, pour l'instant, ça reste de l'ordre du mythe ou du fantasme. On arrive quand même à influencer un petit peu le climat, mais alors vraiment de manière micro-localisée, notamment pour améliorer les récoltes dans certains pays. Enfin, on le fait aux États-Unis aussi, hein, mais alors c'est vraiment très, très localisé, quoi. Mm-hmm. Voilà. Mais en tout cas, il y a des recherches, oui.
Oui, je me souviens qu'en 2005, il y avait eu des rumeurs qui disaient que l'armée française faisait des recherches et qu'il lâchait un peu dans les nuages, qu'il construisait. Il y avait des métaux un petit peu difficiles à absorber par les hommes. C'était un peu dangereux. Mais on n'en entend plus parler.
Non. Bon, après, il y a tout un tas de théories du complot.
Oui, bien
voilà.
Sûr.
Bon. Qu'on sait me connaître, donc j'aime bien broder autour de ça un petit peu.
Oui,
mais,
bien sûr.
Mais derrière une théorie du complot, il y a toujours une part de... Il y a toujours un élément concret quelque part qui est intéressant à exploiter. Voilà, là, la réalité, en tout cas, autour de l'histoire que je raconte, c'est qu'effectivement, on fait des recherches quand même pour influencer sur le climat. Et ce qui est vrai aussi, c'est que le premier pays qui réussira à contrôler de manière significative les éléments climatiques, sera le nouveau leader.
Oui, c'est clair. Mmh. Alors Sylvain, vous n'êtes pas tendre avec les politiciens, notamment les politiciens français. Ils sont tous pourris ou uniquement prêts à toutes les compromissions pour exister aux yeux du monde ? Ils n'ont pas de conscience ?
Non, moi j'ai fait 10 ans de politique, j'ai été longtemps engagé au Parti Socialiste où j'étais très très actif avant de rendre ma carte. Donc moi je ne suis pas dans le tous pourri, hein, ça n'a jamais été mon discours. Mais en revanche, pour avoir beaucoup côtoyé les politiques français, les députés, les sénateurs, parfois les ministres, etc. Ce que j'ai vu de mes propres yeux, ce que j'ai vécu, c'est le cynisme politique. Voilà. On n'est pas confronté à... Le politique en France, il n'est pas corrompu, rarement, parce que d'abord, ils sont extrêmement surveillés, ça les gens ne le savent pas, mais il y a énormément de surveillance, de contrôle, donc bon, pour être politicien corrompu aujourd'hui, il faut être un peu bête, quoi. Faut aimer prendre des risques, en tout cas. Après, y a, sur les anciennes générations, bon, on a eu des exemples, hein, voilà, pas citer Balkany, mais si, on va le citer, Balkany, par exemple, Goufillon, mais voilà. Donc il y en a eu sur les anciennes générations, mais les politiciens depuis maintenant quand même quelques années sont extrêmement surveillés, donc ils mettent pas la main dans le panier comme ça. En revanche, ils prennent des décisions cyniques, ils réfléchissent pas en termes d'humains, mais en termes de chiffres. Et puis voilà, c'est l'opportunisme carriériste à tout craint. Donc c'est je pense d'abord à moi avant de penser à l'intérêt commun. Voilà, moi ce que j'ai vu de mes propres yeux, c'est ça surtout. Et quand on voit les décisions qui sont prises, pas seulement en France, hein, mais même en termes de politique internationale ou à l'échelon européen ou mondial, on se dit quand même quelquefois que vraiment il n'y a aucun souci de l'humain, du bien social, des concitoyens. Et on est dans le cynisme absolu, quoi. Mmh. On est vraiment dans le cynisme.
Alors vous faites dire à Malam, le dictateur somalien, « J'étais au départ animé par une réelle volonté d'apporter ma contribution à l'histoire de mon pays. » J'ai sombré du côté obscur, tant les oppositions étaient fortes. L'exercice du pouvoir vous change, pas forcément pour le meilleur. Et c'est vrai que souvent, les politiciens partent avec la fleur au fusil, et ils ont l'intention de donner le meilleur d'eux-mêmes, et ils sont souvent empêchés.
Je pense que c'est un des problèmes majeurs en politique. C'est-à-dire qu'on a affaire souvent à des gens au départ qui étaient des idéalistes, hein, qui voulaient vraiment changer les choses, contribuer au bien, etc. Et en fait, on vit dans des systèmes tellement sclérosés, tellement tenus par des conflits d'intérêts majeurs qui dépassent parfois ce qu'on peut imaginer. Donc s'ils veulent durer, ils sont obligés de se plier aux exigences des industriels, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'industrie qui prend les décisions. en Europe, mais pas seulement, partout dans le monde, enfin aux États-Unis. Voilà, c'est les gros industriels qui dirigent. Pour pas dire que les GAFA ont pris la relève d'ailleurs. Hein. Bon, voilà, donc on a l'industrie de l'armement qui pèse très très lourd, l'industrie du pétrole. Les GAFA, voilà, les politiques face à ça, ils pèsent rien, quoi. Mmh. Ils pèsent rien. Et puis, le problème des politiciens, c'est que bah, pour faire de la politique, il faut de l'argent. Pour obtenir de l'argent, il faut des dons. Et pour obtenir des dons, il faut satisfaire les intérêts. Parfois de groupes ou de particuliers, voilà. Donc c'est un jeu de dupes en fait extrêmement compliqué. Et voilà. Et ça aussi c'est une chose que j'ai constaté. Là encore on est dans le cynisme, mais c'est la désillusion politique en fait. C'est-à-dire que les gens qui s'engagent en politique finissent par être complètement déçus, quoi. Mmh. Désillusionnés. C'est-à-dire qu'ils sont plus d'illusions au sens littéral du terme. Voilà, donc quand on se fait plus d'illusions, et bah, c'est chacun pour moi, en fait, après.
Oui, oui. Alors, heureusement, dans votre roman, il y a Philippe Lafargue qui sauve l'honneur. C'est un homme intègre.
C'est celui des ciments, Lafargue.
Non, pas du tout. J'avais même pas pensé, d'ailleurs. Mais ça aurait pu.
C'est un homme intègre.
Mais non. Oui, c'est... Enfin, je sais pas si c'est un homme intègre. En tout cas, c'est un homme qui a des principes, c'est sûr. Il ne veut pas laisser n'importe qui s'installer sur le trône. Et c'est un homme torturé, voilà.
Oui.
C'est un homme torturé.
Alors, vos descriptions des attentats et des supplices infligés sont effroyables. Il y a une sorte de raffinement dans l'horreur. Vous vous êtes documenté ou les détails proviennent de vos cauchemars?
Ben, je ne suis pas comme Stephen King. Alors, lui fait des cauchemars, il boit beaucoup et après il fait des cauchemars terribles qu'il écrit. Moi, non. En fait, il y a une espèce de raffinement. Je pense que ça vient de mon héritage patrimonial. Parce que je suis d'origine arménienne, en fait. Mes arrière-grands-parents sont morts dans le génocide arménien. Mm-hmm. Mon grand-père lui a survécu, raison pour laquelle je suis là. Et je pense que je porte quelque chose de ça, que je transmets dans mes livres. Le précédent s'appelait « Les barbares », parce que je voulais aussi montrer la barbarie, de quoi l'homme, enfin l'humain est capable. Voilà, donc ça ressort aussi dans celui-là, même si celui-là, « Les maîtres de la pluie », parlent plus du cynisme que de la barbarie. Mais ça, c'est aussi pour montrer jusqu'où on peut aller pour se faire entendre ou dire quelque chose. Voilà, l'horreur qui est dans certaines scènes. L'exécution des otages, par exemple, c'est pas gratuit, quoi. La manière dont ils sont assassinés. Bon, je vais le dire, tant pis pour... voilà, je vais gâcher un peu, mais il y a un sens qui résonne fortement avec le propos du livre, parce que la manière dont ces otages sont exécutés, ce sont les méthodes qu'on employait pour assassiner les esclaves.
Mmh. Ouais. Alors, compte tenu des événements, le président de la France a décidé l'état d'urgence et de ce fait limite les déplacements de la population et muselle la presse, soi-disant pour ne pas affoler les Français. Il n'y a pas beaucoup de protestations. Est-ce que la peur peut paralyser un pays complet ?
Bah, je pense que c'est le cas déjà. Voilà, donc on est déjà un peu paralysé, inerte. C'est-à-dire que de décennie en décennie, on recule le seuil de l'acceptable. Le politique lui instrumentalise la peur pour asseoir son autorité, son pouvoir. Il y a quelques années, 4-5 ans, une étude a montré que près de 75% des Français étaient prêts à accepter une dictature, quoi.
Ah oui.
En France. Enfin, donc c'est affolant. Voilà, et je voulais aussi montrer dans ce livre à quel point on peut instrumentaliser le terrorisme. Voilà, c'est-à-dire quand il y a un attentat qui est commis quelque part, il y a toujours une répercussion sur le comportement des politiques pour mettre en place plus de contrôle, plus de surveillance, moins de droits, moins de liberté. Voilà.
Et tout le monde est prêt. Enfin, il y a beaucoup de gens qui sont prêts à accepter pour ne pas.
On accepte de vivre en prison au nom de la sécurité. Voilà. Mmh. C'est Walking Dead, quoi. C'est les mecs qui trouvent refuge dans une prison, en fait. Et tout le monde trouve ça génial, en fait. Voilà, en prison, on est en sécurité. Et en fait, c'est un peu une métaphore du monde contemporain. Voilà. Donc, oui. Mmh.
Alors, vous n'aimez pas beaucoup non plus les Américains.
Non, c'est plus compliqué que ça. Moi, j'adore les États-Unis, donc voilà. Mmh. Mais il y a quelque chose dans la politique américaine de cynique. Aussi, enfin, on a eu quand même Bush père et fils. On a eu quand même Donald Trump.
Et il risque de revenir en plus.
Voilà, ces dirigeants-là, ce sont. Ils veulent quand même, depuis la fin de la guerre de 40, ils veulent envahir l'Europe quand même. Hein. Oui. Ils veulent conquérir l'Europe. Ils ont fait une tentative de coup d'État contre De Gaulle. Ça, on l'a oublié. Hein. On le met pas. Nos gamins, ils n'apprennent pas ça à l'école. Mais c'est l'histoire, on ne la refait pas. Donc, ils ont quand même fomenté une tentative de coup d'État contre le général De Gaulle. Quoi.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, voilà. Donc, c'est pas que je les aime pas. Moi, j'aime beaucoup les États-Unis. J'aime un peu moins les dirigeants... américains, là encore, on est dans le cynisme, la volonté de toute puissance, l'hégémonie, l'hégémonie américaine, c'est nous entraîner vers un monde, et c'est ce qu'on voit maintenant, uniforme, c'est-à-dire qu'on va tous porter les mêmes vêtements dans tous les pays du monde, les disparités culturelles vont disparaître au nom du libéralisme, du néolibéralisme américain. Enfin, si on va en Algérie aujourd'hui, on trouve exactement les mêmes magasins, les mêmes marques, les mêmes... De plus en plus, si on voit des images qui viennent des pays étrangers, on se rend compte qu'il y a une uniformisation. Voilà. C'est-à-dire que les identités, ce qui faisait la richesse de l'humanité, nos différences, nos identités culturelles, sont en train d'être gommés par les chantres du capitalisme, du mondialisme économique. Voilà. Et je trouve ça dommage. Voilà. On va vraiment vers l'uniformisation. Et l'uniformisation, c'est une régression. Et tout ce qui ne continue pas à évoluer régresse. Et tout ce qui régresse finit par disparaître.
Alors, la description de la bibliothèque de Jésus Kolonski fait rêver. Alors, même si je n'en vis pas cette crapule, hein, j'aimerais bien avoir ce genre de bibliothèque, pas vous?
Moi aussi, oui. Je me suis un peu plaisir, j'avoue, j'ai fait la bibliothèque idéale.
Oui, c'est vrai que...
Moi, je pourrais vivre à l'intérieur, carrément. Quoi.
Moi aussi, je pense. Alors, nous revenons après une autre de vos chansons. À qui la faute?
Nous les laissant handicapés, même autiste par milliers, taire sa colère, son impuissance, quand plus personne ne peut comprendre, je dois taire face au silence, et si peu d'âme pour se défendre, des vies fragiles et morcelées, sans une issue pour s'échapper, le temps qui passe peut-il compter, l'amour et le bonheur volés, à qui la faute, on n'en sait rien. À qui la faute, on n'en sait rien. Tout ce qu'on doit, c'est tendre une main. À qui la faute, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut, c'est être humain. À qui la faute, on n'en sait rien. Tout ce qu'on doit, c'est souffrir d'un mal inexpliqué qu'ils n'ont rien fait pour mériter. Tant de blessures jamais soignées et l'impossible à exprimer. La nuit qui hante, hurlant ses rêves, où la violence emporte tout. Et tout le jour qui marche ou crève, comme une lutte entre les loups. Quand le regard des autres a peur, quand ils s'écartent ou sont gênés, voir garder la même ardeur et le courage de continuer. La solitude vient se blottir dans les douleurs jamais avouées. On se prépare toujours au pire, mais vivre c'est déjà gagner. À qui la faute, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut, c'est être humain. À qui la faute, on n'en sait rien. Tout ce qu'on doit, c'est tendre une main. À qui la faute, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut, c'est être humain. À qui la faute, on n'en sait rien. Tout ce qu'on doit, c'est tendre une main.
la faute, on n'en sait rien. Tout ce qu'on doit, c'est tendre une main. À qui la faute, on n'en sait rien. Tout ce qu'on peut, c'est être humain. À qui la faute, on n'en sait rien. Tout ce qu'on doit, c'est choisirait un tel chemin pour ses enfants ou pour les siens. La rage au ventre, on serre les poings. Le hasard seul est assassin. Et chaque sourire est une victoire que l'on arrache à l'existence. Chaque parole, un cri d'espoir, comme l'écho d'une autre chance.
Les plumes sur RCN, Mona.
Alors nous sommes toujours avec Sylvain Morayon, venu nous présenter Les Maîtres de la pluie, paru aux éditions Le Lys Bleu. Alors Sylvain, vous êtes aussi auteur, compositeur, chanteur. Hein, comment vous vient l'envie d'écrire une chanson ou un roman?
Alors un roman, c'est il faut que j'ai un propos important à sortir de moi. Je ne me lance pas dans un livre si je n'ai pas quelque chose qui me paraît important à dire.
D'accord.
Voilà. Une chanson, ça va venir d'une émotion plutôt. Voilà. D'une émotion, d'un ressenti, parfois d'une colère, parfois d'une compassion, comme la chanson qu'on vient d'entendre, qui la faute, qui parle des enfants malades ou des gens malades et handicapés. Et voilà, cette injustice. Voilà. M'a donné envie d'écrire cette chanson. Donc c'est pas la chanson, c'est pas quelque chose que j'intellectualise trop ou que je maîtrise trop de manière rationnelle. C'est vraiment l'émotion qui me guide. Mm-hmm. Mais c'est tout aussi impératif que le fait d'avoir envie de raconter une histoire pour dire quelque chose. Mais c'est assez différent en termes émotionnels, ouais.
Alors, vous écrivez, pour vos chansons, vous écrivez d'abord le texte avant de commencer la musique ou l'inverse?
Bah, ça dépend, en fait. En fait, ça dépend. Alors, en ce qui concerne les chansons que je chante, moi, c'est souvent, je pars du texte. Mais quand j'écris pour les autres, je peux partir du texte ou je peux écrire à partir d'une musique. Ça dépend vraiment. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de recette toute faite. Des fois, je vais faire une chanson juste parce que j'ai trouvé un accord qui... Voilà, je crois, oh, c'est trop joli. Parce que j'ai vu un reportage à la télé, ou parce que je prends ma guitare, il y a une humeur, il se passe un truc, donc où j'ai une mélodie qui vient d'un seul coup. Là, je suis arrivé, j'étais dans l'ascenseur tout à l'heure, j'ai une mélodie qui a commencé à surgir, voilà.
Mmh. Alors, vous écrivez comment? La nuit, dans un café, dans le silence?
Alors, dans le silence, ça, c'est impératif. Je peux pas écrire avec de la musique ou... voilà, je sais qu'il y a des gens qui travaillent en écoutant de la musique. Moi, je peux pas. Donc, j'écris soit dans le silence, soit dans les bistrots. J'aime beaucoup écrire dans les bistrots. Je fais beaucoup de chansons dans les bistrots, beaucoup de sketchs aussi. Voilà, et de chapitres de mes romans. J'aime bien l'ambiance des bistrots parce que c'est à la fois vivant et impersonnel.
Mmh. Alors, vous êtes un artiste engagé. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Parce que vous êtes très engagé.
Ce qui me motive, c'est... Je pense que l'humain est un être social et on doit s'intéresser et se soucier de tous et de chacun. Se poser des questions sur... la société dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit, ou on cohabite en tout cas, voilà, il faut tendre vers le mieux.
Oui, il faut conserver sa capacité d'indignation, je pense.
Sa capacité d'indignation, tout à fait. Sa capacité de réaction, enfin, il y a des choses qu'on peut pas... Il y a des choses qu'on peut pas laisser faire, c'est tout. Les questions se posent pas. Quand je m'occupais des associations pour les droits de l'enfant, c'est parce qu'on pouvait pas laisser faire on savait qu'il se passait des choses incroyables et donc voilà, il fallait réagir. Donc maintenant je suis passé à autre chose, mais je l'ai fait pendant 10 ans quand même. Il n'y avait pas de questions. Il y a des choses qu'on peut pas laisser faire, voilà.
Mm-hmm. Alors, quels sont vos projets? J'ai vu que vous alliez sortir un nouveau volume des Chroniques du Piaffeur.
Alors, il y a le prochain volume des Chroniques de Piaffeur qui s'appellera, qui sort dans quelques semaines, ici 3 semaines, 1 mois, il sera prêt, qui s'appelle « Comment se faire avoir par un pervers narcissique en Dilson pour ne pas faire pareil ».
Tout un programme.
Vous aviez eu des modèles?
Oui, oui, j'ai eu des modèles, puis je connais des gens qui ont eu des modèles. Mais oui, absolument, c'est un sujet que je maîtrise extrêmement bien. Donc, il me paraissait important de transmettre un peu ce que je pouvais en savoir, si ça peut aider des gens. Je pense que ça aidera des gens, effectivement.
Alors, selon vous, est-ce qu'un artiste a toute sa place dans notre monde plutôt matérialiste? Est-ce qu'il est reconnu?
Alors, je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai 30 ans de carrière, hein, puisque je vais avoir 52 ans. J'ai eu la chance de commencer jeune, grâce à Michel. Donc, j'ai commencé, j'avais une vingtaine d'années. Donc, j'ai vu la société évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, les artistes ont clairement plus leur place. C'est devenu très très difficile pour les artistes aujourd'hui. Ils n'ont vraiment plus leur place. Les gens ont trop de soucis. Comprenez, en France, on est dans la surabondance, mais on a trop de soucis, voilà, par rapport à la corne de l'Afrique.
Oui. Et pourtant, on ne peut pas vivre dans un monde sans artistes.
Non, c'est pour ça que je continue d'ailleurs. Mais l'art, c'est ce qui définit l'humain. C'est aussi ce qu'on transmet aux générations futures.
Bien sûr.
Voilà. Oui, donc, puis... il est plus important que jamais dans les sociétés régressives et décadentes. C'est Jung qui disait ça. Il disait, mais l'artiste a d'autant plus de mérite de continuer à créer dans une société qu'il ignore.
C'est une façon de regarder le monde différemment et de nous offrir cette possibilité de penser différemment.
C'est l'art doit nous ouvrir à d'autres perspectives, d'autres manières de penser, nous choquer, nous bouleverser, nous inciter à réfléchir au-delà de nous-mêmes. Voilà, c'est pour ça que j'écris pas toujours, mais parfois j'écris des livres un peu dérangeants, mais c'est aussi pour amener les gens à sortir d'eux-mêmes, à réfléchir sur eux et sur le monde.
Alors, selon une enquête du magazine Lire, 20% des livres publiés ne sont pas écrits par les auteurs qui les signent. Alors, c'est énorme. Alors, tout le monde veut écrire son livre, alors pourquoi cette appétence à faire publier un livre? Cette façon, une façon d'exister?
Je pense je le connais ce chiffre. Hein. Moi, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps aussi de ça. Parce que je fais pas mal de salons du livre depuis 2 ans. J'avoue que je suis parfois sidéré par ce que je vois sur les tables de certains. Et j'ai constaté par moi-même, en discutant avec de prétendus auteurs, que des gens venaient sur des salons présenter des livres qu'ils n'avaient pas écrits, en fait. Ils mettent leur nom dessus et ils les ont pas écrits. Alors il y a tout un fantasme, je sais pas, il y a un fantasme sur le... Tout le monde veut écrire un livre, en fait. Oui. Même des gens qui n'ont rien à dire, ils veulent un livre avec leur nom dessus, comme si ils avaient quelque chose à dire, alors que c'est pas le cas. Alors oui, c'est une manière d'exister, et je pense que c'est encouragé par cette société d'abrutissement total des réseaux sociaux, où ce narcissisme constant... on vit dans un monde aujourd'hui où les gens se prennent en photo tout seuls, quoi. Mais c'est incroyable, on aurait fait ça, nous... Enfin, ma génération, on aurait fait ça avec nos appareils photo à l'ancienne. Là, on serait pris en photo, on nous aurait enfermés à l'asile, quoi. Et aujourd'hui, c'est toute la société qui fonctionne comme ça. La génération du selfie, les deux dernières générations, là, je suis sidéré, quoi. Et ce qu'on constate, c'est que c'est tout ça crée un net recul global du quotient intellectuel. Donc on a de plus en plus de crétins et de plus en plus de gens qui écrivent des livres. Il y a un truc qui ne va pas, quoi, en fait.
Oui, c'est ça. Puis c'est au détriment des vrais écrivains, en fait.
Alors, qui les écrit, ces livres, si ce n'est pas les 20% qui les écrivent?
C'est ce qui se passe. Ils font appel. Alors maintenant, ils écrivent même avec l'intelligence artificielle. Donc oui. Et sinon, ils payent des entreprises privées ou des nègres, des biographes, etc. Et puis ils mettent leur nom dessus, estampillés, Moi, je comprends pas. Qu'on prétend écrire un livre si on n'a rien à dire, je comprends pas.
Oui, mais eux, ils pensent avoir quelque chose à dire, peut-être. je ne sais pas, j'essaye de...
alors qu'ils le disent eux-mêmes.
Le disent eux-mêmes.
Oui, il y a peut-être un marché.
ça tue le marché du livre. C'est terrible pour les vrais écrivains, parce que ça tue le marché du livre, parce qu'il y a un encombrement.
Oui.
Aujourd'hui, il y a un encombrement, quoi. Enfin, clairement, c'est... Ça me paraît surréaliste de dire ça, mais il faut bien le reconnaître, quoi. Il y a trop de livres. Et surtout, il y a trop de livres sans intérêt aucun, quoi.
Le problème, c'est que quand on va dans des salons du livre, il y en a qui savent vendre leurs livres, alors quand on se fait avoir quand même de temps en temps.
Bah, il y en a qui sont meilleurs vendeurs qu'écrivains, hein, c'est là, sûr.
C'est hein. Des commerciaux.
mais cela dit, ça a toujours existé dans le monde littéraire.
Hein. Oui.
Bon, Sulitzer était très très doué pour ça. C'était un excellent vendeur. Bon, il n'écrivait pas une ligne. Hein. Bon, voilà. Donc c'est pas nouveau, quoi.
Mais bon, et vous aimez aller à la rencontre des gens?
Bah, évidemment, j'adore parler avec mes lecteurs, oui. J'adore la rencontre du public, voilà. C'est aussi un métier...
Et ils ne vous disent pas que vos romans sont un peu hard?
Et là, j'ai des fans, en fait.
Oui,
voilà.
Oui, c'est ça.
J'ai un lectorat, en fait. J'ai un lectorat assez spécifique, voilà. Mais ils adorent ça, au contraire.
Ils en redemandent.
Donc on en aura dans la même veine? Il y a une idée qui vous trotte déjà dans la tête?
J'ai une idée, oui. J'ai même le titre déjà. Voilà. J'ai une idée qui me trotte dans la tête, oui. Mais là, je suis sur un autre... Enfin, donc là, j'ai le prochain Piaffeur qui sort. Et puis, j'ai un deuxième livre qui sort aussi dans le premier semestre, qui sera un roman historique. Il s'appelle Le Prince d'Orca, que j'ai signé aux éditions Complicité. Alors, les éditions Complicité, c'est un éditeur très exigeant, universitaire, de romans historiques, etc. Et donc le bouquin est prêt, j'attends les épreuves, on va le sortir d'ici quelques mois et ça parlera de la révolution russe.
D'accord. Voilà.
Et puis après j'ai un autre livre qui est déjà prévu que je dois écrire cette année et qui racontera la vie de mon grand-père en fait.
D'accord.
Aristakès Kardikian, survivant du génocide, combattant auprès des républicains espagnols contre les fascistes. Engagé volontaire dans l'armée française contre les nazis. Voilà. Et il a survécu à tout ça. Et moi, je suis là. Et donc, je vais raconter son histoire, en fait.
Mais tous vos livres, là, ça vous prend un temps fou.
Bah oui.
Oui, c'est ça. Non, c'est parce qu'il y a tout le travail de recherche. Je veux dire, c'est très, très long.
Oui, c'est sûr.
Voilà. Mais ça vous passionne quand même.
Bah, il faut le faire, il y a des histoires qu'il faut raconter, je pense. Donc oui, il faut le faire, il faut un peu d'abnégation et d'acharnement. Mais enfin, Les Maîtres de la pluie, vraiment, je l'ai porté pendant 20 ou 25 ans, ce bouquin. Les premiers chapitres, je les ai écrits. Alors évidemment, j'ai remanié tout ça avec ma plume d'aujourd'hui, mais les premiers chapitres ont été écrits il y a plus de 20 ans. Quoi.
Bah écoutez... On attendra le prochain. Alors, merci à John Blut pour la lecture de sa nouvelle merveilleuse Géraldine. Merci à Julien qui était à la technique aujourd'hui. Et un grand merci à Sylvain Morayon d'être venu nous présenter Les Maîtres de la pluie, paru aux éditions Le Lys Bleu. Et nous nous quittons avec une troisième de vos chansons. Reste en ligne. Au revoir à tous et à bientôt.
À bientôt.
Déjà coupé du monde, face au temps qui méfie, j'espère chaque seconde, j'espère chaque seconde. Alors reste en ligne, la trame d'un écran vide, voix disparue dans l'ombre, tonalité suicide. Trop de douleurs m'encombre, repus de ton silence, panique et froid minant. Si nous avait un sens, il faut que tu réponds. Je m'accroche à mes draps, froissé de ton parfum, comme un aveu de toi, que j'emprunte à tes mains, que j'emprunte à tes mains. Reste en ligne, sature au téléphone, mon besoin de t'aimer, ma peur d'être personne, au réseau occupé, l'appel de la folie, obscène et sous l'emprise, la lumière m'éblouit, mon message s'éternise, je t'en prie, réagis. Je ne mérite pas ça, ni ce filin de vie qui ne tient plus qu'à toi, qui ne tient plus, qui ne tient plus qu'à toi. Alors reste en lit, un vertige de migraine qu'aucun calme n'arrête. D'où viennent toutes ces sirènes qui tournent dans ma tête? Reparle-moi de nous, l'amour n'a que ta voix. Garde-moi jusqu'au bout, ne me raccroche pas. On s'agite, on m'emmène, l'urgence de toi me guette. D'où viennent toutes ces sirènes qui tournent dans ma tête? Tout dans ma tête. Alors reste en lit,